Traiter le plus tôt possible les malades, donc les diagnostiquer le plus tôt possible, est désormais une priorité pour la prise en charge. Le diagnostic précoce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi, au fond, le pratiquer? Comment peut-être le pratiquer? C'est le professeur Julien Dumurgier, qui est neurologue au Centre de neurologie cognitive à l'hôpital Lariboisière de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, qui va nous éclairer sur cette question.
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup à la Fondation Recherche Alzheimer pour l'organisation de ces conférences. Et effectivement, je vais vous dire cet après-midi quelques mots autour du diagnostic de la maladie d'Alzheimer et en particulier de ce qu'on appelle le diagnostic précoce. Donc voici mes liens d'intérêt. La maladie d'Alzheimer moderne, en tout cas, c'est une histoire qui remonte au tout début du XXe siècle, avec Alois Alzheimer, qui était un médecin allemand et qui, au début des années 1900, a croisé la route de Madame Augusta Dieter, qui était hospitalisée à la clinique de Francfort, qui était relativement jeune, elle avait environ 50 ans, et elle avait tous les symptômes de ce qu'on appellera plus tard un syndrome démentiel, avec une évolution cognitive rapidement défavorable, et cette patiente est décédée autour de 55 à 56 ans, et Alois Alzheimer a pu la suivre tout au long de la phase finale de sa maladie, décrire ses symptômes et surtout après le décès de cette patiente a pu examiner son cerveau. C'est comme ça que sont nées la description des maladies neurologiques, et il a pu observer au microscope, ce qu'on appelle la méthode anatomopathologique avec des colorations argentiques telles qu'on pouvait le faire à l'époque, que cette patiente avait des anomalies au niveau du cerveau, qu'il a pu décrire. C'est le schéma que vous voyez en bas à droite, qui est de la main d'Alois Alzheimer, avec des anomalies à la fois à l'intérieur des neurones et des anomalies dans la structure du cerveau à l'extérieur des neurones. Donc il a donné son nom à cette maladie, la maladie d'Alzheimer, du fait que la première patiente qu'il a décrit était jeune, 50 ans. Pendant très longtemps, au cours du XXe siècle, la maladie d'Alzheimer a été considérée comme une maladie rare, touchant les sujets jeunes, et par contre, pour les sujets les plus âgés, c'était considéré comme un peu plus normal de perdre la mémoire. On a longtemps parlé de démence sénile, et petit à petit, dans la seconde moitié du XXe siècle, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une même maladie. Et le docteur Ladoucette vous l'a dit en introduction, c'est juste que la fréquence de cette maladie augmente de manière spectaculaire avec l'âge, mais qu'on ait 50 ans ou 90 ans, eh bien, on observe ces dépôts dans le cerveau qui correspondent à la maladie d'Alzheimer. Alors, Comment les médecins font pour diagnostiquer des maladies? On utilise des critères qui sont quelque chose de très important dans la médecine pour que partout dans le monde, quand on parle d'une maladie X, eh bien, qu'on désigne la même chose. Donc le diagnostic de maladie d'Alzheimer a longtemps reposé sur des critères cliniques, donc d'examens cliniques faits par les médecins. Et les premiers critères dits modernes remontent au milieu des années 80 et reposaient purement sur une définition clinique. Donc pour être diagnostiqué maladie d'Alzheimer, il faut une première condition qu'on a longtemps appelée le syndrome démentiel, au sens médical du terme. Donc qu'est-ce qu'un syndrome démentiel? Eh bien, c'est un trouble cognitif, des perturbations des fonctions cognitives suffisamment marquées pour entraîner des difficultés dans la vie quotidienne, pour entraîner une limitation d'autonomie. Donc ça, c'était le critère, premier critère, le critère majeur pour être diagnostiqué maladie d'Alzheimer. Et les autres critères sont, dans le fond, un peu plus flous. Il faut principalement ne pas avoir une autre explication aux troubles cognitifs qu'une maladie d'Alzheimer, donc ne pas avoir fait des accidents vasculaires cérébraux multiples, une syphilis au dernier degré, etc. Donc, comment les médecins ont fait, continuent à faire d'ailleurs, pour porter un diagnostic de maladie d'Alzheimer? Là aussi, ça vous a été dit en introduction, c'est une maladie qui est malheureusement fréquente, 1 200 000 personnes en France, 5% de la population après 65 ans. Et c'est, en tout cas pour les médecins, plus facile de diagnostiquer une maladie fréquente qu'une maladie rarissime auquel un médecin peut être confronté une fois dans sa pratique médicale. Ce n'est pas le cas de la maladie d'Alzheimer. Chaque médecin, quelle que soit sa spécialité, est confronté à de nombreuses reprises à des personnes souffrant de cette maladie. C'est une maladie, on l'a dit, qui augmente avec l'âge, hein, même s'il y a des sujets jeunes qui développent la maladie autour de 50 ans, et bien typiquement, la maladie débute après 70 ans, voire après 75 ans. Elle est marquée et bien, par cette perte progressive de l'autonomie, hein, qui conduit une dépendance vis-à-vis des proches, hein, le plus souvent la famille immédiate. Il y a ce qu'on appelle une diminution de l'efficience cognitive globale, qu'on mesure par ce score dont vous avez entendu parler, hein, le score MMS, qui est une échelle qui va de 0 à 30, 30 étant la performance la plus élevée. Et vous le savez tous dans cette salle, eh bien, la maladie d'Alzheimer engendre des difficultés de mémoire. Donc la mémoire, c'est quelque chose de compliqué, hein, tout est mémoire quasiment dans le fonctionnement de la cognition humaine, mais le point particulier de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'elle concerne la mémoire des faits récents, ce que vous avez fait la semaine dernière, le mois dernier, les vacances d'été, ou dans quelles conditions vous avez passé les dernières fêtes de Noël. C'est ce type de mémoire, la mémoire des épisodes de vie, qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est typiquement atteinte dans la maladie d'Alzheimer. Donc la maladie d'Alzheimer touche la mémoire, mais pas que. Elle concerne l'ensemble des fonctions cognitives, le langage, la capacité à calculer, la capacité à raisonner, la capacité à s'orienter, point de suspension. Et l'imagerie du cerveau telle qu'on la pratique, typiquement l'IRM, est globalement normale. En tout cas, il n'y a pas de signe très spécifique de maladie d'Alzheimer. On fait une imagerie cérébrale principalement pour éliminer une autre cause de trouble cognitif. On l'a évoqué, les problèmes vasculaires, les problèmes de tumeurs, etc. Et c'est une maladie, vous le savez, qui évolue avec le temps. Donc, devant tous ces symptômes, eh bien, les médecins peuvent porter un diagnostic clinique de maladie d'Alzheimer. Cette maladie, et ça vous a été aussi exposé dans la première partie de ces conférences, donc c'est une maladie clinique, mais c'est aussi une maladie neuropathologique. Il n'y a pas que les cliniciens, les médecins cliniques, qui peuvent porter un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il y a aussi les médecins neuropathologistes, c'est-à-dire les médecins dont la spécialité est de faire un diagnostic histologique en examinant au microscope les tissus. Et au milieu des années 80, ces fameuses anomalies dans le cerveau qui avaient été constatées par Alois Alzheimer au début du XXe siècle, au milieu des années 80, on a pu les caractériser, les identifier, et c'est les deux protéines dont vous avez entendu parler, le peptide bêta-amyloïde qui va constituer ces plaques amyloïdes, et la protéine tau qui est dans les neurones, qui va constituer les dégénérescences neurofibrillaires. Donc les médecins font des diagnostics cliniques de maladie d'Alzheimer, les médecins neuropathologistes font des diagnostics neuropathologiques de maladie d'Alzheimer, ils examinent en post-mortem le cerveau des personnes malades. Ils regardent quelle est la fréquence de ces anomalies, donc du peptide bêta-amyloïde, de la tau, et quand la fréquence de ces anomalies est élevée, eh bien, les neuropathologistes font un diagnostic neuropathologique de maladie d'Alzheimer. Et quand on fait un diagnostic clinique, quand un médecin dit telle personne souffre de maladie d'Alzheimer, dans le fond, il fait une sorte de paris explicatifs en disant les problèmes de mémoire que vous avez, les difficultés cognitives que vous avez sont expliquées par les lésions neuropathologiques de la maladie d'Alzheimer. Est-ce que ces médecins, est-ce qu'on a souvent raison quand on fait ce diagnostic clinique? Eh bien, des études de confrontation entre le diagnostic des cliniciens et le diagnostic post-mortem tel qu'il a été porté par les neuropathologistes ont été menés. Il y a de nombreuses études et ce qui s'avère, c'est que ce diagnostic clinique est ce qu'on appelle peu spécifique, d'environ 70%. Ça veut dire que parmi toutes les personnes qui ont un diagnostic clinique de maladie d'Alzheimer, donc ces problèmes de mémoire, ce syndrome démentiel, ces problèmes de langage, etc., eh bien, 70% effectivement ont une maladie d'Alzheimer, mais 3 fois sur 10, 30%, il y a une autre cause de syndrome démentiel. Vous l'avez évoqué, madame, la maladie à corps de Lévy. Il y a beaucoup d'autres maladies neurodégénératives qui peuvent donner des tableaux très similaires. Donc on a parlé de ces protéines, on parle beaucoup de ces protéines, elles sont connues, vous l'avez vu, depuis Aloïs Alzheimer, en tout cas leur présence. On sait qu'il y a des dépôts de plaques amyloïdes, on sait qu'il y a des lésions en lien avec cette protéine tau phosphorylée, on sait qu'il y a une mort des neurones, et on a longtemps eu du mal à comprendre quel est l'équilibre, quel est le lien, quelle est la cinétique de ces différentes protéines. Et ce lien a été théorisé par c'était une avancée conceptuelle très importante qui a été décrite par Hardy et Higgins en 1992 et qui est ce qu'on appelle la cascade amyloïde, où pour la première fois, on a essayé de proposer un cadre théorique structurel pour expliquer la cinétique de ces lésions et proposer un cadre explicatif de la maladie d'Alzheimer. Donc, très schématiquement, cette cinétique postule que le premier élément pathologique de la maladie d'Alzheimer, ça va être l'accumulation de ces plaques amyloïdes qui vont engendrer une accumulation de la protéine tau qui elle-même va détruire les neurones et cette mort neuronale va provoquer les symptômes de la maladie. Cette hypothèse a été importante pour le développement des biomarqueurs, puisque directement à partir de cette cascade amyloïde, on peut imaginer, si on est capable de doser ces peptides amyloïdes, cette protéine tau, une cinétique de ces biomarqueurs au cours du parcours d'évolution de la maladie. Les premiers marqueurs qui vont être perturbés, c'est l'accumulation de ces plaques amyloïdes dans le cerveau. Les deuxièmes marqueurs vont être l'accumulation de la protéine tau. Troisième marqueur, la mort des neurones. Et quatrième marqueur plus tardif, les conséquences cliniques de toutes ces pathologies. Autre avancée conceptuelle concernant la maladie, vous l'avez compris, quasiment tout au long du XXe siècle, pour avoir une maladie d'Alzheimer, il faut avoir ce qu'on appelait le syndrome démentiel, ce qu'on appelle maintenant le trouble non cognitif majeur, donc des difficultés cognitives suffisamment évidentes pour entraîner des difficultés dans la vie quotidienne. Ça, bien entendu, quand on parle de maladies très progressives qui s'évoluent sur des années, ça n'est pas quelque chose qui s'installe du jour au lendemain. Et on a décrit cliniquement la partie clinique en amont du trouble neurocognitif majeur, qui a été défini initialement comme le trouble cognitif léger, où on a certes des difficultés objectives quand on fait des tests de mémoire. Donc on a des performances anormales par rapport à des normes de personnes du même âge et du même niveau d'études, mais ces difficultés cognitives ne sont pas suffisamment marquées pour gêner les personnes dans leur vie quotidienne. Donc ce schéma présente un peu l'évolution de la maladie d'Alzheimer telle qu'on la conçoit actuellement. Donc vous voyez, la partie émergée de l'iceberg, c'est la phase démentielle, ce qu'on considérait avant comme la maladie d'Alzheimer, donc des difficultés dans la vie quotidienne, avec une phase légère qu'on a des difficultés limitées aux activités les plus complexes, gérer les tâches administratives, se connecter à Internet, jusqu'à une phase sévère où les difficultés sont évidentes dans toutes les activités les plus élémentaires de la vie quotidienne, se laver, s'habiller, etc. Mais le tout début de cette histoire, c'est une phase qu'on appelle complètement sans symptômes, qui est une phase purement biochimique, où les différentes protéines dont on a parlé vont commencer à s'accumuler dans le cerveau. Les premières conséquences cliniques vont être ce qu'on appelle une plainte cognitive. Donc on se plaint de la mémoire, mais si on fait des tests, les tests sont normaux. Une première étape va être franchie quand les tests tels que peuvent les faire les médecins ou les neuropsychologues vont être anormaux, ce qu'on appelle le trouble neurocognitif mineur. Puis, une fois que les troubles sont suffisamment marqués pour entraîner des difficultés dans la vie quotidienne, il va y avoir la phase de trouble neurocognitif majeur. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le diagnostic précoce ? Le diagnostic précoce, c'est soit le trouble neurocognitif mineur, des tests cognitifs anormaux, mais pas de difficultés dans la vie quotidienne, soit la phase légère du trouble neurocognitif majeur, c'est-à-dire quand les personnes sont gênées uniquement dans les tâches les plus complexes de la vie quotidienne. J'ai mis un petit point d'exclamation, il ne faut pas confondre le diagnostic précoce, qui est le diagnostic précoce dans la phase d'évolution de la maladie. On peut avoir un diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer à 90 ans, et les débuts précoce de la maladie d'Alzheimer, où là on fait mention à l'âge de début, typiquement quand on débute une maladie avant 60 ans ou avant 65 ans, dans ce cas-là on a un début précoce, mais on peut avoir un début précoce et un diagnostic tardif et inversement. Quand s'alerter pour, quels sont les signes d'alerte précoce de maladie d'Alzheimer ? Le principal c'est la plainte cognitive, vous l'avez compris, l'impression que la mémoire fonctionne moins bien que quelques années auparavant. Cette plainte peut être émaner de la personne qui en souffre ou de l'entourage familial qui s'inquiète, répéter plusieurs fois la même question, perdre fréquemment les affaires, les lunettes, les téléphones, etc. Tout cela entraîne une dépendance accrue aux aidants familiaux, le conjoint typiquement, les enfants, peut avoir des difficultés d'orientation initialement dans les trajets les plus complexes, pour les personnes qui travaillent, être gênées, etc. Donc pourquoi le diagnostic est difficile ? Vous le voyez quand on parle de troubles neurocognitifs majeurs, donc ce qu'on appelait avant les syndromes démentiels, la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de cette pathologie, mais il y a de nombreux diagnostics différentiels dont parfois cliniquement il est extrêmement compliqué de faire la part des choses. Et si on remonte en amont le trouble neurocognitif mineur, donc qui désigne le fait d'être autonome dans la vie de tous les jours, mais d'avoir sur un test cognitif des performances anormales, eh bien là, il y a énormément de causes qui peuvent aller du problème de sommeil. Si on ne dort pas pendant trois nuits et qu'on passe un test neuropsychologique, on est très à risque d'avoir quelques difficultés de concentration. Donc il y a énormément de causes médicales, non médicales, d'avoir un trouble non cognitif mineur. Mais parmi toutes ces causes possibles, un certain nombre de personnes qu'il faudrait identifier, eh bien, ont ces difficultés du fait d'une maladie d'Alzheimer débutante. Alors, ce qui a permis de débloquer, d'améliorer considérablement les capacités diagnostiques de la maladie d'Alzheimer, c'est le développement des biomarqueurs. Biomarqueurs, qu'est-ce que c'est ? C'est des mesures, qu'elles soient biologiques ou radiologiques, qui permettent directement du vivant de la personne d'estimer ces fameuses lésions neuropathologiques présentes dans le cerveau, donc ces plaques amyloïdes, ces lésions en lien avec la protéine tau. Et ça, ça a été très important dans l'évolution des concepts de maladie d'Alzheimer, parce que ça permet de rattacher des symptômes cognitifs, troubles de mémoire typiquement, à la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, la présence de ces plaques amyloïdes, la présence de ces protéines tau, et donc augmenter la spécificité du diagnostic. Voilà. Donc les biomarqueurs, quels sont-ils ? Celui qui est le plus utilisé dans la pratique courante des consultations mémoire, c'est la ponction lombaire. On prélève un peu de liquide céphalorachidien et on va doser directement le peptide bêta-amyloïde, la protéine tau, donc les deux protéines majeures de la maladie d'Alzheimer. Actualité semi-récente, depuis 2 ans, on peut maintenant avoir à disposition, dans la pratique courante des consultations mémoire, on peut avoir accès au PET-amyloïde, qui est un examen de médecine nucléaire qui permet, par un examen d'imagerie, de voir où sont situées les plaques amyloïdes dans le cerveau des personnes. Donc le développement de ces biomarqueurs a eu un impact direct sur la façon dont les médecins peuvent diagnostiquer la maladie d'Alzheimer en évoluant des symptômes vers la lésion qui caractérise la maladie, avec en 2018 la publication de critères dits ATN qui mettent un peu de côté tous les signes cliniques de la maladie. Et ils avaient à l'époque un titre un peu provocateur en disant il faut aller vers une définition biologique de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire pour avoir une maladie d'Alzheimer, il faut avoir des lésions, des biomarqueurs qui montrent qu'on a des plaques amyloïdes et des biomarqueurs qui montrent qu'on a cette protéine tau, cette dégénérescence neurofibrillaire dans le cerveau. Donc ça, c'était 2018 et 2021, des critères plus européens sous l'initiative du professeur Bruno Dubois ont défini la maladie d'Alzheimer comme ce qu'on appelle une entité clinico-biologique, c'est-à-dire que pour avoir une maladie d'Alzheimer, il faut avoir des symptômes, comme toute maladie, et des symptômes évocateurs de la maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir ces fameux biomarqueurs qui montrent des anomalies amyloïdes et de la protéine tau. 2 minutes. Un espoir récent, ou en tout cas un progrès très récent, vous voyez, ces biomarqueurs, ils sont un peu compliqués, parce que la ponction lombaire, c'est un peu lourd à organiser, ça fait un peu peur à tout le monde. La médecine nucléaire, ce n'est pas accessible partout, ça a des coûts pour la société très élevés. Mais depuis quelques années, se développent des marqueurs plasmatiques, accessibles par une simple prise de sang, où on est maintenant capable de doser cette fameuse protéine tau phosphorylée, par une simple prise de sang, qui est facilement accessible et qui a un coût relativement limité. Voilà. Donc ce n'est pas un examen qui est encore disponible dans le soin, vous ne pouvez pas demander à votre médecin traitant de vous faire doser la tau phosphorylée plasmatique, mais il y a des pays où c'est le cas, et en France c'est en plein essor, il y a beaucoup de protocoles de recherche qui visent à préciser quelle va être l'utilisation de ce taux. Je voulais dire un mot sur les biomarqueurs numériques, parce qu'on parle beaucoup de biomarqueurs biologiques, mais il faut à la fois des biomarqueurs et à la fois un peu de clinique. Et notre centre, par exemple, a contribué à développer un outil qui est sur smartphone, que tout le monde peut télécharger, et qui permet de manière semi-automatisée de se tester sa mémoire. Alors c'est un outil qui est destiné aux médecins pour les aider à évaluer s'ils voient une personne qui se plaigne de la mémoire, de manière à essayer de voir s'il y a des arguments objectifs pour suspecter des difficultés de mémoire ou si les choses sont plutôt rassurantes. Voilà, je vais passer rapidement pour plutôt faire une conclusion. Donc pourquoi faire un diagnostic précoce? Alors comme souvent dans la vie, il y a des arguments pour, des arguments contre. Les arguments contre, eh bien, ça reste encore un processus difficile, hein, et je pense que vous êtes nombreux peut-être à avoir eu des proches qui souffrent de cette maladie, et vous avez été confrontés aux difficultés d'accès à la filière diagnostique, parce qu'il faut des consultations très spécialisées, l'accès à ces biomarqueurs, hein, qui peuvent difficilement être généralisés à 1 million de personnes. On l'a dit, les traitements actuels qui sont symptomatiques et qui ont une certaine limitation dans leur efficacité, et la peur, parfois objective, des conséquences sur le moral du diagnostic d'une pathologie grave pour lesquelles les possibilités thérapeutiques actuellement restent limitées. Les raisons pour, eh bien, c'est le droit à être informé sur son état de santé. Quand on se plaint de sa mémoire et qu'on le souhaite, eh bien, c'est le code de santé publique. On a le droit, au mieux que peut le faire la science, la médecine, de savoir pourquoi on est dans cet état. C'est important de faire une consultation mémoire quand on a des problèmes de mémoire, parce qu'on peut avoir autre chose qu'une maladie d'Alzheimer, notamment des causes curables, de l'hydrocéphalie à pression normale, aux problèmes de sommeil, la liste est longue. Il y a la possibilité malgré tout d'intervention précoce, de stimulation cognitive, d'éviter les médicaments qui peuvent aggraver l'évolution, la possibilité de planifier son futur et, on l'a dit, à Rouen, partout en France, la possibilité de participer à des essais thérapeutiques. Voilà. Et la grande, une grande raison d'espoir dans le futur, c'est que les traitements qui vous ont été présentés, eh bien, ils ciblent les phases précoces de la maladie. Et même une de ces deux molécules a pu montrer que plus on est précoce, alors non pas au sens clinique, mais au sens physiopathologique, c'est-à-dire quand les lésions de la protéine Tau ne sont pas encore trop diffusées, eh bien ces médicaments semblent d'autant plus efficaces qu'on attaque la maladie le plus tôt possible. Et ça, c'est un concept qui est vrai dans toute la médecine, et peut-être même dans la vie d'une manière générale. Il vaut mieux traiter les problèmes le plus tôt possible que quand ils sont trop avancés. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur Dumurgier. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc, je vais vous poser la première. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que sont les premiers éléments d'alerte qui doivent amener à envisager un diagnostic sans penser il y a des oublis, mais c'est normal, c'est l'âge?
Alors c'est une bonne question dont la réponse n'est pas si simple, parce que je l'ai évoqué, la plainte cognitive, donc de se plaindre de sa mémoire, c'est un signal d'alerte, mais la plainte cognitive c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent, qui augmente avec l'âge, selon la façon dont on pose la question dans ce qu'on appelle la population générale, dans les enquêtes, eh bien une personne sur quatre à une personne sur deux se plaint de sa mémoire. Qui ne s'est jamais plaint de sa mémoire. Donc la plupart du temps, heureusement, c'est ce qu'on appelle une plainte banale. Il n'y a pas d'explication médicale à pourquoi on se plaint de sa mémoire. Dans un nombre assez fréquent de cas, on retrouve une cause. Les causes les plus fréquentes sont de plus en plus les pathologies du sommeil. Vous savez que le syndrome d'apnée du sommeil, par exemple, est de plus en plus diagnostiqué, et c'est un peu l'épidémie du XXIe siècle, qui touche quasiment une personne sur quatre passé 60 ans, et les troubles du sommeil, directement, ont une action sur la mémoire. Donc on peut se plaindre de la mémoire, et c'est le quotidien des consultations mémoire, diagnostiquer une pathologie du sommeil, une apnée du sommeil, traiter, et les gens vont considérablement mieux, sans compter les bénéfices cardiovasculaires, les dépressions, etc. Donc un certain nombre de plaintes cognitives, de plaintes de mémoire sont en lien avec des pathologies qu'on peut traiter. Et dans un certain nombre de cas, on l'a dit, ça peut être le tout début d'une maladie. Donc les symptômes, ils sont peu ce qu'on appelle spécifiques. Donc il n'y a pas de signe. On dit pathognomonique en médecine, c'est-à-dire 100% on a la maladie, ce qui explique pourquoi on a dû attendre ces biomarqueurs pour pouvoir faire des diagnostics précoces de précision. Malgré tout, il y a un certain nombre de symptômes qui sont alertants. L'inquiétude de la famille, ça c'est quelque chose, donc qu'on soit inquiet pour nous-mêmes, c'est une chose, mais quand nos proches qui nous connaissent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, eux-mêmes s'inquiètent, ça c'est quelque chose, en tout cas, qui est un élément d'alerte.
les autres choses, c'est le fait de répéter plusieurs fois les mêmes questions. Ça, c'est pas quelque chose qu'on observe de manière si banale. Si je vous demande qu'est-ce qu'on va manger ce midi, 10 minutes après, je vous repose la même question. 20 minutes après, je vous repose la même question. Ça, ce sont des symptômes qui sont assez évocateurs peut-être d'une pathologie organique, neurologique. Le fait que les tâches habituelles sont reprises en charge par le conjoint, donc le mari qui jusqu'à présent faisait les tâches administratives, gérait les impôts, et petit à petit il y a un glissement vers la conjointe. Tout ça, clairement, c'est pas des choses pathognomoniques, encore une fois, mais ce sont des éléments d'alerte. Il ne faut pas hésiter à en parler au médecin traitant, le médecin généraliste, qui est, vous le savez, le premier maillon du système de soins français, qui va faire une petite évaluation cognitive, peut-être utiliser même Screen pour se faire une idée, et s'il a des signes d'alerte, eh bien orienté vers des consultations mémoire, que ce soit le CM2R de Rouen, les consultations mémoire de proximité. Tout le territoire actuellement est maillé par plus de 600 consultations mémoire qui justement sont dédiées à faire un diagnostic de est-ce que c'est une maladie dégénérative, est-ce que c'est une autre cause, en lien bien sûr avec l'ensemble des médecins qui prennent en charge la personne.
Y a-t-il une question ? Oui, madame.
Donc moi, j'entends souvent des aidants qui cherchent à comprendre la maladie du proche. Et en fait, on leur dit, c'est pas Alzheimer, c'est sûr. On ne sait pas ce que c'est. Et du coup, ça crée beaucoup d'angoisse. C'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
C'est ce que j'ai essayé de montrer. Ce qui a révolutionné un peu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'est ces fameux biomarqueurs. Et donc on peut faire un diagnostic positif, mais à l'inverse, si on ne retrouve pas ces fameux signes de dépôt amyloïde, on peut éliminer de manière quasi certaine une maladie d'Alzheimer. C'est pour ça, effectivement, qu'on peut dire à certaines personnes qui se plaignent de la mémoire, vous n'avez pas de maladie d'Alzheimer. Ce qui a été vraiment une révolution de ces 10 dernières années. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas éliminer une maladie d'Alzheimer. On fait ce diagnostic un peu mou dont j'ai parlé au début, de probabiliste, de maladie d'Alzheimer probable, et on regardait comment les choses évoluaient. Maintenant, on a cette possibilité d'éliminer. Alors, il y a d'autres maladies neurodégénératives, et la maladie d'Alzheimer est la plus fréquente. Quand ça n'est pas une maladie d'Alzheimer, pour les médecins qui font la prise en charge étiologique, c'est une raison forte pour rechercher autre chose. Une maladie à Cordelévy, dont vous parliez, madame, qui est une maladie qui est considérablement sous-diagnostiquée, indirectement, la capacité à pouvoir faire un diagnostic positif ou négatif de maladie d'Alzheimer permet d'aider à faire le diagnostic des autres maladies. Si ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, on va se poser la question de la maladie à Cordelévy, faire d'autres types de marqueurs, des marqueurs d'imagerie, demain des marqueurs biologiques, pour voir si ce n'est pas une maladie à Cordelévy, une dégénérescence frontotemporale, bien rechercher les problèmes de sommeil, etc. Après, ces marqueurs ont aussi, malgré tout, une dimension pronostique. C'est-à-dire que, malgré tout, quelqu'un qui a des problèmes de mémoire va avoir peur de la maladie d'Alzheimer. Le fait de l'éliminer, même si on ne peut pas forcément faire un diagnostic, malgré tout, ça reste, pour nous, une bonne nouvelle de ne pas avoir une maladie d'Alzheimer.
Est-ce que la maladie peut apparaître suite à un accident particulier ? Je m'explique, ma femme en 2015 a été décelée, on lui a trouvé une tumeur de la moelle épinière, et donc elle a été opérée en urgence, et ça s'est plutôt bien passé. Le médecin avait dit qu'il y avait quand même des risques pour la marche et autres, et la maladie d'Alzheimer est apparue 2 ans après cette tumeur. Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien, est-ce qu'on peut trouver justement des liens ?
Alors oui, vous avez raison, la maladie d'Alzheimer, on vous montre les preuves de la recherche, mais il y a encore beaucoup de choses mystérieuses, et un des plus grands mystères, c'est pourquoi une personne développe une maladie d'Alzheimer. On sait que c'est une maladie qui est ce qu'on appelle complexe, alors complexe pas au sens commun, mais au sens médical du terme, c'est-à-dire qui fait interagir à la fois des facteurs de risque génétique, qui fait qu'en raison de tous les gènes qu'on a, on va être plus sensible à développer la maladie que son voisin ou son cousin, mais ça n'est pas suffisant. Il y a aussi des facteurs environnementaux externes qu'on rencontre tout au long de la vie. L'autre chose qui est particulier, c'est qu'il y a des maladies où toutes ces protéines sont forcément pathologiques. Si vous avez le Covid dans le sang, vous avez le Covid. C'est un peu différent d'un maladie d'Alzheimer, parce que ces fameuses plaques amyloïdes, cette fameuse protéine tau, tout le monde en a, a fortiori en vieillissant. Leur fréquence augmente avec l'âge, et à 75-80 ans, on va dire, c'est des constatations banales de retrouver ces protéines. Ce qui est différent, c'est que chaque personne ne va pas avoir la même susceptibilité de développer la maladie clinique face aux lésions neuropathologiques. Et vous avez raison, tout ce qui fragilise le cerveau de manière globale va faire qu'on va être plus sensible à développer la maladie à un niveau d'accumulation de ces protéines que si on n'avait pas eu ces facteurs. Donc, notamment tout ce qui est cardiovasculaire, le cerveau va être moins bien vascularisé et on sait que tous les facteurs de risque cardiovasculaire qui contribuent à fragiliser le cerveau vont aussi fragiliser le cerveau à l'expression de la maladie due à ces protéines.
Monsieur ? Parlez bien fort.
Au niveau des marqueurs, au niveau sanguin, le marqueur tau, est-ce qu'en France, je n'ai pas compris si le marqueur tau, on pouvait le faire en France, ou vous parliez de l'extérieur de la France où on peut faire cette prise de sang et avoir ce marqueur tau, ou est-ce qu'on peut le faire en France ou non?
Alors, il me semble que je l'ai dit, mais je l'ai répété, effectivement, ils ne sont pas disponibles actuellement dans le cadre du soin. Ce n'est pas le cas d'autres pays. On l'a vu, les États-Unis, typiquement, ont des politiques beaucoup plus libérales en termes de... Voilà, avec des positifs et des effets négatifs. Donc, aux États-Unis, par exemple, on peut avoir assez facilement accès à ces dosages de taux plasmatiques. En France, en Europe, d'une manière générale, et probablement non sans raison, il y a des règles de prudence qui disent qu'on veut bien comprendre effectivement où on va avant d'ouvrir en grand... en grand les vannes. Donc, c'est des dosages qui sont faits de manière assez simple dans les laboratoires de recherche. Je pense qu'à Rouen, dans les laboratoires de biologie, on pratique facilement ces dosages, mais qui sont faits à visée de recherche actuellement et pas pour répondre à une question clinique. Voilà. Donc, encore une fois, je vous le redis, les médecins généralistes, à l'heure actuelle, ne peuvent pas faire ces dosages. Peut-être, mais c'est un point d'interrogation, parce que la difficulté est plus... on va dire réglementaire et de comment interpréter ces dosages que de faisabilité technique. Actuellement, ils sont relativement simples à faire d'un point de vue technique. C'est plus que fait-on de ces résultats, sachant que ça n'est pas anodin, comme tout dosage qu'on peut faire. C'est encore plus sensible dans la maladie d'Alzheimer. Il faut qu'on sache quoi faire, comment interpréter ces dosages. Et ça, c'est une question qui est objectivement pas complètement réglée au jour d'aujourd'hui.
Les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, si on les emmène un peu dans le stress, on voit qu'elles ne répondent plus aux interrogations, elles ne répondent plus aux choses, elles sont complètement perdues. C'est dû à quoi le stress entraîne quoi au niveau de la maladie d'Alzheimer?
Alors, vous avez raison et c'est une bonne observation. Le stress fait partie des symptômes de la maladie de l'Alzheimer, ou peut-être encore plus de la maladie à corps de Lévy, de toutes ces maladies neurodégénératives. Alors, il y a plusieurs choses. C'est des maladies où on perd les repères, et quand, voilà, le fait d'être perdu à la fois au niveau spatio-temporel, eh bien, c'est générateur de stress. Le fait d'être conscient, effectivement, qu'on est en décalage avec le reste de son environnement, ce hiatus va être générateur de stress. Donc, il y a il y a des causes explicatives simples, mais il y a aussi probablement un substrat neurologique au niveau de ce qu'on appelle les noyaux gris, donc vraiment la structure intime du cerveau qui gère les émotions, la peur, le stress, qui sont perturbés dans ces maladies. Et pour être tout à fait honnête, c'est des symptômes que la médecine actuelle a un peu du mal à contrôler. La première réponse, c'est les traitements anxiolytiques, voilà, que vous connaissez, hein, type Xanax, ce genre de choses, mais qui objectivement, malheureusement, n'ont qu'une efficacité limitée sur ce type de symptômes. Il y a aussi toute une prise en charge comportementale, hein, c'est pour ça qu'il y a des formations qui peuvent être proposées par tout un tas de structures auprès des aidants pour savoir comment réagir face à son proche, comment contribuer à le rassurer, comment essayer de retrouver un équilibre. Et ça, c'est probablement au moins aussi important, aussi efficace, d'agir en amont, de déminer les situations que l'approche purement chimique de traitement anxiolytique.
Une autre deux autres questions. Oui. Ce sera les deux dernières de cette séquence.
J'aurais souhaité savoir sur les malades jeunes, enfin, qui développent une maladie d'Alzheimer avant 65 ans, il y a des troubles cognitifs qui semblent évoluer assez rapidement. Est-ce que ça s'explique en fait au niveau chimique, parce qu'il y a des protéines qui se développent plus rapidement, ou je ne sais pas si ma question est claire.
Non, si, c'est une bonne question en plus. À Rouen, c'est une terre phare de tentatives d'explication de pourquoi on peut développer une maladie d'Alzheimer avant 60 ans, et ce qui fait partie là aussi des grands mystères de cette maladie. Alors, il y a un certain nombre de formes de maladie d'Alzheimer dont on parle beaucoup, qui sont les formes génétiques, où certaines familles possèdent un gène qui est transmissible à la descendance avec un risque sur deux. Donc ça fait des maladies où il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, puisque dans la fratrie, une personne sur deux a le risque d'avoir la maladie et peut la retransmettre aussi à ses enfants. Et l'autre grande particularité de ces formes génétiques, c'est de débuter précocement, donc précocement avant 55 ans, voire avant 50 ans. Il s'avère que ça reste des... Donc on parle beaucoup de ces maladies pour tout un tas de raisons, mais de manière objective, ce sont des maladies, alors je ne vais pas dire rarissimes, je parle sous le contrôle de ma collègue, mais c'est des maladies qui sont très rares. C'est 1 pour 1000 patients, et même si on regarde les personnes de 50 à 60 ans, ça fait l'objet de travaux de recherche majeurs des équipes rouennaises, on retrouve parfois ces mutations, mais dans 80-90% des cas, on ne retrouve pas d'explication génétique claire. Ce qu'on peut retrouver, en revanche, c'est des facteurs de risque génétiques, c'est-à-dire certains gènes qui ne donnent pas directement la maladie, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, des gènes qui vont faire qu'on est plus fragile à la maladie que le voisin. Donc, ils ne sont pas suffisants pour déclencher la maladie, mais ils vont faire qu'on va être beaucoup plus à risque de développer la maladie que si on n'avait pas ces gènes. Et on peut avoir un gène, deux gènes ou trois de ces gènes, et l'accumulation de ces gènes peut expliquer pourquoi, en tout cas chez un certain nombre de personnes, la maladie peut débuter tardivement. Après, vous avez raison, on a tendance à dire que la maladie évolue plus rapidement, mais il y a plusieurs choses. D'abord, paradoxalement, le retard diagnostique chez les sujets jeunes est beaucoup plus élevé que chez les personnes âgées, parce que quelqu'un de 80 ans qui a des problèmes de mémoire, eh bien, le médecin généraliste va tout de suite penser à une maladie d'Alzheimer, enfin, tout de suite, va penser rapidement à une maladie d'Alzheimer. À 55 ans, il ne va pas penser à une maladie d'Alzheimer. En plus, les symptômes sont un peu différents. Il y a moins de problèmes de mémoire, plus de problèmes de concentration. Et les patients finissent chez nos collègues psychiatres pour des prises en charge de dépression. Et il va y avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de faire le diagnostic. Et on diagnostique les personnes jeunes à des stades souvent beaucoup plus avancés et tardifs que des sujets plus âgés où le parcours est plus fléché.
Dernière question, très rapidement, c'était la dame ici, au deuxième rang.
Bien sûr, vous avez raison. Clairement, vous le savez, vous le vivez au quotidien, la situation de la maladie d'Alzheimer actuellement est difficile. On est là aussi pour donner un peu de perspective. Et si on fait la synthèse des deux présentations qui vous sont faites, qui vous ont été faites, l'espoir dans le futur, vous l'avez compris, c'est cette histoire de diagnostic précoce où dans le fond si on laisse tomber un peu les signes cliniques dont vous parlez qui effectivement sont difficiles, peu spécifiques, ça fait un siècle que la médecine s'en rend compte, En revanche, ce qu'on arrive actuellement à faire, c'est le diagnostic de ces fameuses protéines, donc notamment de ce peptide amyloïde. Actuellement, c'est des examens compliqués, mais vous l'avez vu, actuellement, par une simple prise de sang, on est capable de voir si les personnes sont très à risque ou au contraire, s'ils sont à un risque minime d'avoir ces plaques amyloïdes dans le cerveau. Et ce n'est pas, voilà, c'est pas diagnostic pour faire plaisir, je ne sais pas, aux médecins, que sais-je. L'espoir, mais qui, encore une fois, hein, c'est des points d'interrogation, comme tout espoir, c'est le début d'arrivée de ces traitements où on commence, alors est-ce que c'est le premier pas, est-ce que ce sera un faux pas, ça l'avenir nous le dira, mais on commence à avoir des traitements qui sont capables de bloquer cette fameuse accumulation de plaques amyloïdes. Et si on se projette dans un futur de 5 ans, 10 ans, qui encore une fois est un gros point d'interrogation, mais c'est la possibilité à 60 ans de faire une prise de sang, de voir si on a un taux d'amyloïde élevé, un peu comme on le fait pour le cholestérol, si oui, de prendre des médicaments qui, on espère, seront plus simples que ces perfusions toutes les deux semaines, de manière à empêcher que ces protéines s'accumulent dans le cerveau et à y détruire les neurones, parce qu'on sait bien qu'une fois que les neurones sont détruits, malheureusement, il n'y a pas vraiment de perspective thérapeutique efficace actuellement. On n'est pas capable de faire repousser les neurones, mais on commence à être capable d'agir en amont, d'éviter que les neurones soient détruits. Et ça, c'est une approche que la médecine fait, notamment dans le cardiovasculaire. Pourquoi on fait des prises de sang une fois par an, une fois tous les 5 ans, passé un certain âge? C'est pour voir, par exemple, si on a du cholestérol. Si on a du cholestérol, eh bien, on prend son comprimé tous les soirs. Pourquoi? Pour éviter de faire un infarctus 10 ans après. Le cholestérol en lui-même, on s'en moque, hein, ça ne donne pas de signe clinique ou que sais-je, mais on sait que de traiter 100 personnes qui ont un cholestérol élevé, ça permettra d'éviter que 10 personnes fassent un accident vasculaire cérébral 10 ans après ou un AVC. Donc peut-être, en tout cas, c'est une des perspectives, et ce n'est pas vraiment de la science-fiction, il y a des essais cliniques qui ont lieu en cours actuellement chez des personnes qui sont complètement asymptomatiques, qui n'ont aucun problème de mémoire, pas de plainte cognitive, mais qui ont uniquement des perturbations de cette fameuse taux phosphorylée plasmatique sur la prise de sang. Donc c'est des essais qui sont actuellement en cours, qui sont hyper ambitieux, parce que les essais doivent durer longtemps, hein. Le temps de suivi de 3 ans et demi, ce qui est beaucoup, voire énorme pour des essais médicamenteux, mais on attend beaucoup d'espoir de ces essais, parce que peut-être qu'on pourra accéder non pas à un traitement un peu tardif de la maladie, mais à un traitement préventif. Et c'est la prévention qui est importante pour éviter que les gens arrivent, comme votre mère, effectivement, à une situation où malheureusement la médecine actuelle arrive un peu tard.
Dépistage organisé.
Alors, c'est, encore une fois, c'est une stratégie qui, à l'heure actuelle, fait l'objet d'essais thérapeutiques. Donc, c'est pas de la science-fiction délirante. Et vous l'avez vu avec la première présentation, effectivement, ces fameux anticorps anti-amyloïdes, alors, c'est le début. Donc, ils ont leurs limitations, ils ont leurs interrogations. Mais pour la première fois, effectivement, on a l'impression qu'on arrive un peu à peser. Et vous voyez, l'efficacité sur le plan clinique est... Alors, elle est réelle, mais elle est remise en question par un certain nombre. En tout cas, l'efficacité sur l'accumulation de ces plaques amyloïdes, elle, vous l'avez vu dans les diapositives, est spectaculaire. C'est-à-dire qu'on arrive à retirer toutes ces plaques amyloïdes. Donc, si on agit avant qu'elles aient fait des dégâts, on peut imaginer, effectivement, on l'espère tous, hein, c'est le fameux chaos de la maladie d'Alzheimer, qu'on parlera dans 10 ans de faits historiques, dont on s'étonnera devant Augusta Ditter en disant en 2024, on pouvait avoir une maladie d'Alzheimer. C'est le cas dans la pathologie cardiovasculaire. Dans les années 1950, les gens avaient des insuffisances rénales effroyables dues à l'hypertension. Maintenant, ça fait de la médecine profondément arriérée. Alors, ça existe toujours, mais c'est rarissime.
Merci infiniment au professeur Demurgier. Merci à vous. Donc,